Merci à vous qui nous écoutez. Vous êtes bien sur Radio Orient. Il est 17h avec vous, Nadia Bencher, pour le point de l'actualité. À une de cette édition, les États-Unis autorisent le départ de leur personnel non essentiel en Israël. Washington évoque des risques de sécurité. La Chine appelle pour sa part ses ressortissants à la vigilance en raison de tensions régionales accrues. L'Agence internationale de l'énergie atomique presse l'Iran à coopérer. L'AIEA veut vérifier les installations nucléaires de la République islamique qui refuse l'interdiction totale de l'enrichissement de l'uranium. Le dossier du jour est cette nouvelle escalade entre le Pakistan et l'Afghanistan. La tension a atteint cette nuit un niveau inédit après des bombardements pakistanais sur Kaboul. Après des mois de crispation et d'affrontements sporadiques, Islamabad et Kaboul semblent engagés dans une dangereuse montée aux extrêmes. Derrière cette confrontation, un différent frontalier ancien, Georges Lefeuvre, spécialiste du Pakistan, nous en dira plus. Bonjour. À Gaza, la défense civile fait état d'au moins 5 morts dans des frappes israéliennes malgré le cessez-le-feu officiellement en vigueur depuis octobre. Elle évoque 3 morts dans le sud après une frappe de drone et 2 autres dans le centre du territoire. Non loin de là, au Liban, l'armée israélienne annonce avoir frappé 8 bases de la force Al-Radwan du Hezbollah chiite dans la région de Baalbek, dans l'est du pays, évoquant des stocks d'armes, dont des roquettes. L'opération a fait 1 mort. Selon le ministère libanais de la Santé, un adolescent syrien de 16 ans et un blessé. En Syrie, le gouvernement et des factions druses de Souaïda ont procédé à un échange de 86 détenus facilité par le CICR. Selon l'organisation, 61 détenus ont été transférés vers Souaïda et 25 vers Damas après des violences meurtrières dans la province à l'été 2025. Les États-Unis autorisent le départ d'Israël de leurs employés non essentiels, invoquant des risques pour leur sécurité, selon l'ambassade américaine. Cette annonce intervient sur fond de tensions régionales et de menaces de frappe contre l'Iran, alors que Washington renforce son dispositif militaire dans la zone. La Chine appelle aussi ses ressortissants en Israël à renforcer leurs précautions et avait déjà demandé d'évacuer l'Iran dès que possible. L'AIEA appelle l'Iran à coopérer de manière constructive et à répondre d'urgence à sa demande de vérifier l'ensemble des installations nucléaires. Cet appel intervient alors que Téhéran met en garde Washington contre toute exigence excessive. L'Iran refuse une interdiction totale de l'enrichissement d'uranium et rejette toute discussion sur ses missiles. Les pourparlers indirects doivent se poursuivre. Équipe technique lundi à Vienne avec l'appui de l'AIEA, puis nouvelle session annoncée très bientôt. Volodymyr Zelensky évoque une réunion tripartite Ukraine, Russie, États-Unis aux Émirats Arabes Unis, possiblement à Abu Dhabi. Le président ukrainien estime que les échanges de jeudi à Genève avec les Américains ont permis d'avancer dans les préparatifs. Le président ukrainien précise que la prochaine rencontre est très probablement attendue début mars. En Tunisie, l'ancien premier ministre islamiste Ali El-Arayed a été condamné en appel à 24 ans de prison. Selon son avocat, il est accusé d'avoir facilité l'envoi de djihadistes à l'étranger après la révolution de 2011, ce qu'Ennahda a toujours nié et il clame son innocence. La cour a aussi réduit certaines peines dans ce dossier avec des condamnations allant de 3 à 24 ans. En France, le parquet général requiert 20 ans de réclusion en appel contre Brahim Chnina et Abdelhakim Sfrewi, accusés d'avoir mené une campagne de haine visant l'enseignant Samuel Paty. Cette cabale en ligne avait précédé son assassinat le 16 octobre 2020 après un cours sur la liberté d'expression. Le parquet requiert aussi 16 ans pour complicité d'assassinat contre 2 proches de l'auteur de l'attaque avec une période de sûreté des 2/3 dans les 2 dossiers. C'est la fin de ce point de l'actualité. Merci de votre écoute. On se retrouve tout de suite pour le dossier du jour. Vous êtes bien à l'écoute de Radio Orient. Place à présent au dossier du jour. La nuit dernière, le Pakistan a lancé des frappes sur les principales villes d'Afghanistan après une offensive menée la veille par les forces afghanes. Les tensions nourries par des accusations de soutien à des groupes armés de part et d'autre de la frontière étaient déjà vives depuis plusieurs mois. Longtemps proches, le Pakistan et l'Afghanistan s'affrontaient sporadiquement depuis la reprise du pouvoir par les talibans en août 2021. Un conflit latent donc qui menace de s'embraser. On voit ça avec vous, Marc Aurel Barrez. Le gouvernement pakistanais a parlé de guerre ouverte. Qu'en est-il ?
Oui, pour le moment, aucune des deux parties n'a officiellement annoncé de campagne militaire à grande échelle. En tout cas, c'est une escalade majeure. Le Pakistan a bombardé dans la nuit de jeudi à vendredi Kaboul, la capitale, mais pas seulement, aussi Kandahar, la ville où habite le chef suprême des talibans. Des frappes qui interviennent donc en réponse à une offensive terrestre afghane lancée la veille à la frontière. D'après les autorités pakistanaises, 274 membres du régime taliban et d'autres groupes armés ont été tués. Côté pakistanais, 12 soldats seraient à dénombrer. En réponse à ces bombardements nocturnes, les talibans ont annoncé des frappes importantes contre les positions pakistanaises. Des coups de feu et des tirs d'artillerie auraient été entendus à la frontière aujourd'hui. Les autorités talibanes avaient annoncé hier s'être emparées de 15 avant-postes le long de la zone frontalière. Le gouvernement pakistanais a affirmé que les forces armées disposaient, je cite, de toute la capacité nécessaire pour écraser les ambitions afghanes. Kaboul a annoncé de son côté vouloir résoudre le conflit par le dialogue. Alors que la situation évolue rapidement, une chose est sûre, la relation entre Kaboul et Islamabad était dégradée depuis des mois.
Mais alors, sur quoi porte le différend entre les deux pays ?
Alors, au cœur du conflit, on trouve l'accusation de longue date d'Islamabad, selon laquelle l'Afghanistan abriterait des activités terroristes armées pakistanaises. Alors, Islamabad affirme que bon nombre de ses combattants opèrent depuis le sol afghan, ce que le gouvernement taliban dément. Ces combattants, les talibans pakistanais, alors ils partagent une idéologie proche des autorités afghanes et s'opposent au gouvernement central. Il faut dire que le groupe militant a intensifié ses attaques à l'intérieur du Pakistan depuis la prise de pouvoir des talibans en 2021. En effet, ces derniers mois ont été marqués par des attentats suicides majeurs à Islamabad et dans la région frontalière. La recrudescence de la violence a aggravé la méfiance entre les deux pays voisins.
En quoi la frontière que les deux pays partagent est-elle au cœur des tensions?
On l'appelle la ligne Durand, du nom du diplomate britannique qui l'avait tracée à l'époque coloniale. Très poreuse, elle s'étire à travers des régions montagneuses de plus de 2600 km. Elle coupe en deux des communautés Pashtun, groupe auquel appartiennent les talibans, qui n'y accordent en fait traditionnellement que très peu d'importance. Le gouvernement taliban, lui, ne reconnaît pas cette frontière qu'il qualifie d'imaginaire, puisque héritée de l'époque coloniale. Le Pakistan, tout au long, a construit des tranchées et une barrière en certains points, afin, selon lui, d'entraver le déplacement d'insurgés armés, une décision que l'Afghanistan a largement condamnée. Enfin, ce lieu de migration, sanctuaire pour des groupes armés, est aussi le centre névralgique des relations économiques entre Kaboul et Islamabad.
Une zone donc éminemment stratégique. Le conflit menace-t-il de s'aggraver ? Y a-t-il un risque de conflit régional ? Élément de réponse avec Georges Lefeuvre, spécialiste du Pakistan.
Écoutez, ça fait maintenant depuis 12 ans que les experts, dont je crois faire partie, ne parlent plus de la guerre en Afghanistan. On parle de AFPAK, Afghanistan-Pakistan. Et il n'y a pas une guerre afghane, il y a une guerre AFPAK qui peut malheureusement toujours déraper parce que il y a 40 millions quand même d'habitants en Afghanistan, 280 millions au Pakistan, et rien que la population pachtoune qui est considérée par ce conflit fait à peu près 60 millions d'habitants. Donc, même si ça restait localisé, ça peut faire une déflagration terrible. Maintenant, le Pakistan sait modérer les conflits pour éviter l'embrasement. Je ne promets pas qu'ils vont réussir à le faire. Et alors, j'entends dire, parce que ça va être votre question forcément, l'Iran s'est proposé à faire une médiation. Ben, ce serait très bien s'ils y réussissaient, mais je rappelle quand même que la même chose s'est produite le 18 octobre dernier, et les Turcs, qui sont quand même une grande puissance régionale, plus le Qatar, ont organisé des médiations. Il y a eu 3 rounds de médiation à Istanbul qui ont échoué, parce que la ligne Durand dont je vous parle ouvertement, c'est ça la cause, mais c'est comme quand on dit il y a un éléphant dans le salon. Tout le monde a peur de réveiller l'éléphant. Donc on ne parle pas à la ligne du rang. Alors c'est ça le problème. Voilà. Alors si la Turquie n'a pas réussi, l'Iran pourrait peut-être réussir. Mais l'Iran, dans la situation qui est la sienne aujourd'hui, une crise intérieure d'une part et une tension terrible face à l'armada de Donald Trump, je ne sais pas si véritablement l'Iran a les moyens de faire cette médiation jusqu'à un apaisement. Personnellement, je ne le crois pas. Mais je pense qu'il n'y aura pas d'embrasement total, mais simplement Afghanistan-Pakistan, ce serait déjà très grave.
Georges Lefebvre, spécialiste du Pakistan, chercheur associé à l'IRIS, l'Institut des Relations Internationales et Stratégiques. Il répondait à Marc Aurel Barrez. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci à Anis Gemri à la réalisation. Excellente suite de programme à l'écoute de Radio Orient.